Bonsoir Laurent Gounel, bonsoir mesdames et messieurs.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
C'est un vrai plaisir de retrouver Laurent Gounel chez Mola, donc dans cette nouvelle salle Ozone. Donc dans cette grande salle, nous retrouvons Laurent Gounel qui était venu déjà pour son livre précédent, Le jour où j'ai commencé à vivre, c'était en 2014, hein, déjà 2 ans. Et donc, 10 ans d'écriture, 2006-2016, 10 ans bien tassés maintenant, puisqu'on est en 2017, et 5 romans, 5 livres. On dit romans, mais on reviendra sur ce genre et cette classification. En tout cas, 5 grands succès. Et d'emblée, en 2006, vous aviez rencontré un très grand succès avec L'homme qui voulait être heureux. Et donc, comment vivez-vous bien ce 5e ouvrage, ce 5e grand succès apparemment, et tout de suite, puisqu'il est sorti fin 2016?
Moi, je ne raisonne pas tellement en termes de succès, vous savez.
C'est pour se débarrasser de la question.
comment je vis le fait que ce soit un succès, c'est ça ou...
Oui, comment vous le vivez?
Vous savez, bon, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est que le succès ne vienne à moi qu'à l'âge de 40 ans, j'en ai 50 aujourd'hui, et c'est une chance parce qu'évidemment, le principal piège dans ce domaine, c'est de s'identifier au succès, vous savez, de chercher, de vouloir exister à travers le succès. Et là, je crois que c'est un peu la fin des haricots dans ces cas-là, c'est-à-dire que l'ego s'en empare. Et puis le succès, comme beaucoup de choses dans la vie, on pourra revenir dessus, puisque c'est l'un des thèmes principaux de ce roman, le succès est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes et qui peut nous amener à nous perdre, puisqu'il peut nous amener à nous prendre pour ce que l'on n'est pas. Parce que, évidemment, je ne suis pas le succès de mes livres. Vous voyez, je suis autre chose que ça.
Bien plus.
Oui, bien sûr.
Mais justement, c'était la question piège, parce que comment résister à un tel succès? Il faut quand même avoir un soi serein.
Disons que j'avais à l'avance conscience du risque. Je savais en effet qu'il était facile de glisser dedans et de se perdre. Donc j'ai toujours gardé une grande distance par rapport à ça. Ce qui fait que j'ai... Bon, je ne dirais pas que ça ne m'a pas fait plaisir que mes livres aient du succès, mais sans plus, en fait, vraiment. C'est-à-dire que je connaissais tellement dès le début le risque que j'ai gardé une grande distance par rapport à ça. Donc voilà, je suis surtout content que mes livres trouvent leur lecteur et que ça puisse nourrir les gens, enfin, apporter quelque chose au lecteur. Maintenant, je n'en tire pas de fierté, ni même de... Enfin, je ne tire pas un bonheur de ça. Vous voyez, je suis pas heureux du succès de mes livres. Honnêtement, j'ai réussi à garder une grande distance et ça continuera. Et mes amis vous diraient que je n'ai absolument pas changé, que finalement, rien n'a changé dans ma vie, je dirais. Il n'y a pas un avant et un après, vous voyez, vraiment.
Et donc, c'est une nouvelle vie qui a commencé quand même avec l'écriture en 2006, puisqu'on pourrait dire que c'est votre troisième vie, finalement.
Disons que ce qui a changé, c'est mon activité professionnelle, parce qu'au début, j'ai commencé à écrire tout en exerçant mon ancien métier, qui est un métier de consultant en relations humaines. Et au début, d'ailleurs, je pensais que je pourrais mener les deux de front. Et je me suis vite rendu compte que non, ça, c'était vraiment une illusion pour le coup. Et donc, j'ai totalement arrêté mon ancienne activité professionnelle il y a à peu près 7 ans. Pour me consacrer à l'écriture. Bon, il faut vous dire aussi, je ne suis pas doué pour faire plusieurs choses à la fois. Mon épouse me dit que c'est très masculin. Et sur ce plan-là, je dois être très viril.
Et donc, dans ce nouveau livre, eh bien, on a plaisir à continuer le chemin, puisque finalement, chacun de vos livres est un petit peu une balise sur un chemin d'abord de développement personnel, et puis dans celui-ci, plus de spiritualité. Vous allez nous expliquer aussi comment vous articulez développement personnel et quête de la spiritualité, puisque là, on est vraiment dans le sujet de ce 5e livre.
Oui. Et en fait, je pense qu'il y a une sorte de voie naturelle, en commençant par le développement personnel, c'est-à-dire un travail sur soi à un niveau psychologique, avant d'évoluer vers une démarche plus spirituelle. Alors, il y a plein de raisons à ça. Il y a d'abord une raison liée au fait que si on entreprend trop tôt une démarche spirituelle, le risque, c'est de ne pas résoudre ses problèmes. Vous voyez, on a tous des difficultés, des problèmes qui sont à un niveau psychologique et qui se caractérisent dans nos relations aux autres, dans notre relation au travail. Ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être de la colère, ça peut être des choses assez différentes en fonction de nos personnalités. Mais il est normal, j'ai envie de dire, d'avoir un certain nombre de difficultés au niveau psychologique. Et en fait, si on ne travaille pas à ce niveau et que trop tôt dans la vie, je dirais, on se tourne vers la spiritualité, eh bien à ce moment-là, le risque est de ne pas résoudre ses problèmes, oui, un peu se mettre la tête dans le sable, hein, enterrer ses problèmes, parce qu'on est connecté à quelque chose de plus grand que nous, qui est peut-être très beau. Quoi. Mais je pense que, même je suis sûr, que si on est dans ce corps voilà, incarné, c'est pour bien vivre déjà cette vie incarnée sur Terre. Vous voyez, c'est peut-être même notre mission déjà de bien vivre cette vie-là. Et donc, ça passe forcément, selon moi, par un travail sur soi. Donc, je pense qu'il faut, entre guillemets, nettoyer le psychologique avant de se connecter au spirituel. Ça, c'est la première raison. Une deuxième raison est liée aussi au fait que si on ne travaille pas sur soi d'abord, à ce moment-là, la démarche spirituelle peut être totalement biaisée. Vous vous souvenez peut-être de la pyramide de Maslow, hein, Abraham Maslow, ce philosophe qui classifiait les besoins humains. Hein, si on devait le récapituler en deux mots, il disait que les besoins humains s'organisent selon une hiérarchie. Il y a tout d'abord les besoins physiologiques, hein, manger, dormir. Au-dessus, il y a les besoins de sécurité, voilà, pouvoir protéger ses proches, avoir un toit, etc. Puis après, je crois qu'il y avait les besoins d'appartenance, voilà, se sentir appartenir à un groupe social, vous voyez, que ce soit un club, une entreprise ou je ne sais quoi, sentir qu'on appartient à quelque chose ou à un groupe d'amis même. Et puis au-delà, il y a un besoin de reconnaissance, d'estime de soi. Et puis au-dessus, il y a les besoins de réalisation de soi. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai appris ce modèle, c'était sur les bancs de mon université il y a bientôt 30 ans, quoi. Je me souviens encore que ça ne me disait rien quand on parlait de réalisation de soi. Moi, je savais réaliser des tableaux de bord à l'époque, parce que j'étais en formation économique, je savais réaliser un certain nombre de choses, mais je ne savais pas me réaliser et je n'avais absolument aucune image de ce que cela représentait. Et je ne devais pas être le seul à froncer les sourcils dans l'amphi, puisque le prof, au bout d'un moment, nous a dit « Non, mais cherchez pas à comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre, ça ne vous concerne pas. En France, ça doit concerner deux personnes, peut-être Giscard et Mitterrand. » Il avait cité à l'époque. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans ce pays, nous sommes des millions à être dans la réalisation de soi, à chercher à se réaliser. Donc, ça montre bien qu'on a évolué tous individuellement et collectivement. Donc, ça, c'est l'aspect positif. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce que par rapport à une démarche spirituelle, pour moi, si on entreprend une démarche spirituelle avant d'avoir travaillé sur soi, eh bien, en fait, on peut l'utiliser pour résoudre nos besoins d'appartenance, donc qui sont plutôt à un niveau inférieur, vous voyez, dans la pyramide de Maslow. Et ça, on peut le voir, d'ailleurs, chez certaines personnes qui vont vivre à ce moment-là la spiritualité au niveau de cette appartenance. Donc, ça va être l'appartenance à une religion. Et donc la religion sera utilisée non pas comme une voie spirituelle pour s'éveiller comme disent les Asiatiques, mais plutôt pour appartenir, pour assouvir le besoin d'appartenance. Je suis fier d'être chrétien ou juif ou musulman ou bouddhiste ou je ne sais quoi encore, vous voyez. Et c'est pas une démarche spirituelle à ce moment-là.
Oui. Alors ce que vous dites montre aussi que dans les années 80, on était peut-être tous en France très formatés à l'occidental et que cette pyramide peut-être elle vaut plus dans une société occidentale que dans certaines autres sociétés où peut-être la spiritualité est beaucoup plus fondamentale que ce que nous appelons avec Maslow la base.
Oui. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a deux siècles, on a tourné le dos à la religion en France, hein, au moment de la Révolution. On s'est libéré de l'emprise quelque peu abusive que les religieux avaient sur notre quotidien, sur chacun d'entre nous, et sur la société dans son ensemble d'ailleurs. Et c'est sans doute une bonne chose. Mais ce faisant, on a peut-être un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, en fait, on est allé majoritairement vers l'athéisme, qui, entre nous soit dit, est une croyance comme les autres, parce que finalement, on ne peut pas plus prouver l'existence de Dieu ou d'un Dieu quelconque qu'on peut prouver son inexistence. Donc finalement, la démarche la plus sage, peut-être, est une démarche agnostique. Vous voyez, se dire, il y a peut-être quelque chose et je ne peux pas le prouver. Mais quand on se revendique athée, eh bien, on est dans la croyance, vous voyez. Tout comme quand on se revendique croyant, quoi. C'est un peu pareil, c'est un peu les deux faces de la même pièce, quoi. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça d'ailleurs.
Alors, justement, parce que le personnage principal, Alice, alors ça m'a amusé de découvrir que votre personnage principal était une femme cette fois, parce que je vous avais taquiné la dernière fois sur le fait que tous vos héros sont des hommes, et vous m'avez répondu que dans l'homme, on embrassait la femme, vous embrassiez la femme. En tout cas, cette fois-ci, on a Alice, donc qui est une femme et qui a un prénom peut-être prédestiné à la découverte, à l'aventure, et qui est athée. Et donc, le roman commence avec ce personnage d'Alice qui est très contemporain. Alors, dites-nous un petit peu ce qu'il faut dire. On ne va pas en dire trop, mais quel est le profil dans lequel beaucoup de femmes et d'hommes vont se reconnaître aujourd'hui ?
Ben, c'est une femme d'aujourd'hui, c'est une femme active. Elle travaille dans un grand cabinet de conseil en communication. Elle a son bureau dans la tour Montparnasse à Paris. Voilà, elle est mariée, elle a un enfant. Et elle est en effet parfaitement athée, ce qui est son droit. Et donc elle a une vision plutôt matérialiste de la vie, à savoir au sens philosophique du terme. Hein, donc la vie pour elle est matière. On est juste un ensemble d'atomes, de molécules qui forment notre corps, qui disparaîtra complètement à notre mort et il n'y aura rien après. C'est sa vision qui est la sienne. Ce qu'on peut dire sur le pitch du livre, comme disent les Américains, c'est qu'elle a un ami d'enfance qui, lui, est devenu prêtre. Il ne se destinait pas à ça à l'origine, mais il est devenu prêtre. C'est donc un jeune prêtre dans l'église de Cluny, en Bourgogne. Et il se trouve qu'elle croise sa route de nouveau. Et il est plutôt pas très épanoui parce que il y a un petit nombre de fidèles dans son église. Voilà, il fait la messe pour 12 ou 13 personnes tous les dimanches. Donc ça le déprime un peu parce que c'est quelqu'un qui a la foi évidemment et puis surtout qui a envie vraiment de pouvoir nourrir spirituellement ses fidèles. Mais il se rend bien compte qu'il va pas changer le monde en s'adressant à 13 personnes. Donc il est quelque peu déprimé. Et elle va se sentir, pas obligée, mais en tout cas, elle va sentir profondément en elle l'envie d'aider son ami pour plein de raisons. D'abord, c'est son ami d'enfance et elle l'aime énormément. Et puis aussi, elle lui est redevable parce que lui-même était très présent quand elle a traversé une passe difficile dans le passé. Donc, elle se met en tête de l'aider. Sauf qu'elle est athée. Elle n'y connaît absolument rien en spiritualité. Elle n'y connaît rien dans le christianisme, pas plus que dans les autres religions d'ailleurs. Et elle va devoir s'approprier le bouquin, si vous voulez, mais elle le fait comme elle le ferait de n'importe quel dossier d'entreprise, oui, de façon très, 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 très professionnelle, pour pouvoir mettre en œuvre ses compétences à elle, qui sont plus de l'ordre de la communication et du marketing, en l'occurrence. Donc, il y a quand même un décalage assez, assez profond entre ces deux personnes.
Oui, et dans son milieu professionnel et peut-être aussi dans son milieu social. On sait qu'en France, il y a, d'après les dernières statistiques, je crois, 45% de non-pratiquants. Voire d'athée, enfin, la définition de l'athéisme étant pas très rigide non plus, comme on l'a vu, ça recouvre sans doute les agnostiques. Et donc, elle a un peu honte de lire la Bible et elle met une couverture du code civil pour pouvoir lire la Bible tranquillement, sans remarque extérieure. Donc, le début est assez décoiffant, très humoristique, puisqu'on a une confrontation de deux mondes d'emblée, celui du marketing et vraiment de la société matérialiste contemporaine, et puis celui de l'Église catholique et des gens qui se consacrent, entièrement leur vie à la foi catholique et qui se désespèrent. Et Jérémy, peut-être aussi, est un prénom intéressant. Il n'est pas dans la plainte, mais enfin, on voit bien qu'effectivement, il est déprimé, puisque dans sa grande église de Cluny, qui est multimillénaire, multicentenaire, on va dire, qui est emblématique en France, en tout cas, eh bien, il est loin de remplir l'église, quoi, très loin. Mais à la fin, ça change. Et donc, elle va appliquer des méthodes de marketing à quelque chose qui n'a rien à voir et qui paraît au départ quand même assez sacrilège à son ami Jérémy.
Tout à fait, mais au-delà de ça, pour une fois de plus s'approprier le dossier, elle va être amenée donc à se pencher non seulement sur la lecture des évangiles, mais elle va approfondir le sujet, puis elle va aussi s'intéresser à d'autres courants spirituels pour savoir ce qui se fait par ailleurs. Parce que dans le marketing, on appellerait du benchmarking, vous voyez, voir ce que fait la concurrence pour éventuellement savoir s'en inspirer. Et en fait, à sa grande surprise, elle va découvrir des choses qui vont l'intéresser. C'est-à-dire, au début, pour elle, tout ça, c'était un tissu de niaiserie. Et elle va découvrir des choses qui vont l'intéresser dans sa propre quête, sachant que sa quête, à elle, était plus au niveau développement personnel. Ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, elle est assez fondue de développement personnel. Et là, elle va découvrir des choses qui vont l'interpeller à bien des égards. Alors, elle va pas devenir pour autant... devenir croyante comme ça, elle va pas tout prendre pour argent comptant, si vous voulez, elle va pas adhérer à une religion ou une autre, mais en tout cas, ça va quand même l'interpeller assez profondément.
Et le lecteur avec elle, parce que c'est bien aussi l'intérêt de chacun de vos ouvrages, qu'on peut les appeler romans, parce qu'effectivement, il y a des personnages auxquels on s'identifie, il y a une histoire qui est souvent... amusante par certains côtés, mais qui est aussi très humaine et très profonde par d'autres. Et en même temps, c'est le moyen de rencontrer des personnalités ou des recherches par le biais de dialogues. Dans votre premier livre, L'homme qui voulait être heureux, il y a essentiellement justement un dialogue avec ce vieux sage. Et il y a aussi dans les livres suivants des expériences. Et là, on a une parfaite harmonisation entre ces dialogues, ce fil narratif, et ces anecdotes, enfin, ou ces mésaventures, et puis ces expériences très quotidiennes qui, au départ, s'appliquent à Jérémy, parce que le diagnostic d'Alice, c'est qu'il n'est pas assez rayonnant, et que si elle arrive à le faire changer, à le faire s'épanouir en termes de développement personnel, ça ira mieux, il attirera les gens dans son église et il sera attractif. Au départ, c'est ça. Et finalement, ça se retourne un petit peu sur elle parce que c'est elle qui va être attirée beaucoup plus profondément. Enfin, on peut le lire comme ça, il y a une dialectique. Au départ, elle veut aider Jérémy et le transformer. Et puis finalement, ce qu'elle fait va la transformer à son tour.
Et la vie est ainsi faite, d'ailleurs.
C'est ça. Il y a une interaction
oui,
c'est très réaliste, finalement.
Le problème de l'être humain, c'est quand même l'évolution. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. L'évolution, on ne naît pas comme on meurt. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on pourrait presque dire que l'être humain naît incomplet. Enfin, hein, l'éducation des enfants, ça dure quand même très, très, très longtemps. Moi, j'en ai deux à la maison, jusqu'à un âge assez avancé dans la vie, quand même. On n'est pas complètement fini, n'est-ce pas ? Et on apprend toute sa vie. C'est ça qui est fabuleux et enthousiasmant, d'ailleurs. C'est qu'à tout moment, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Toute notre vie, on évolue. Et moi, j'ai une vision de la vie, d'ailleurs, qui est assez positive. C'est la vision purement matérialiste, c'est qu'à partir de l'âge de 20 ans, on est sur le déclin. Okay. Si on n'est que matière, à partir de 20 ans, on perd des neurones, vraiment. Voilà, notre peau s'abîme, les cheveux aussi, le corps s'abîme, tout s'abîme, finalement. Moi, je m'en rends bien compte, j'ai 50 ans aujourd'hui, je n'ai pas tout à fait les mêmes capacités cérébrales qu'à 20 ans. Je cherche parfois mes mots, ça m'arrive il y a 5 minutes. Vous voyez, et en même temps, si on entrevoit le fait que la vie est peut-être autre chose que justement des atomes en mouvement au sein de notre enveloppe charnelle, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir une vision positive. Et moi, j'ai une vision positive de la vie liée à une sorte d'évolution de l'âme. Et je pense que... Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je parlais d'évolution à l'instant. Et je pense que si on a une mission sur Terre, ou en tout cas parmi les missions qui sont les nôtres sur Terre, il y a sans doute celle d'évoluer. C'est comme si notre âme s'incarnait, voilà, pour apprendre un certain nombre de choses et pour évoluer. Et je vois l'évolution chez chacun d'entre nous sur Terre. Et vous voyez, autant mon corps s'abîme, et y compris mon cerveau s'abîme en avançant dans l'âge, autant j'ai l'impression que mon âme s'améliore, qu'il y a un certain nombre de choses qui s'améliorent en moi. Et notamment qui je suis, c'est-à-dire qui je suis ne s'abîme pas avec le temps, et ça, chacun d'entre vous ici le sent bien. C'est-à-dire autant on peut perdre la mémoire et être moins beau qu'aujourd'hui qu'à 20 ans, si vous avez comme moi plus de 20 ans, mais en même temps vous êtes toujours vous-même, vous êtes peut-être même plus vous-même qu'avant. Pourquoi plus ? Parce que vous vous êtes libéré d'un certain nombre d'illusions. D'illusions sur qui vous étiez, parce qu'à 20 ans, c'est facile de s'illusionner en s'identifiant à un certain nombre de choses qui ne sont pas nous-mêmes. Je vous disais d'entrée de jeu tout à l'heure que je n'étais pas mon succès. Par extension, je ne suis pas mon métier. Mais à 20 ans, on peut croire qu'on est son métier, surtout si on a un métier valorisant. On peut croire aussi qu'on est son corps, qu'on est son apparence physique. On peut croire qu'on est son intelligence, si on se croit bien doté de ce point de vue-là. On peut croire qu'on est sa culture. On peut croire aussi, certains croient qu'ils sont leur possession, vous voyez. On peut croire que notre valeur repose sur nos biens, notre voiture, notre maison ou tout ce que vous pouvez avoir. Et en fait... En avançant en âge, on se libère de toutes ces illusions. C'est-à-dire, on sait bien que notre valeur ne repose pas sur la beauté de notre maison, de notre voiture ou de notre sac à main. On sait bien que notre valeur est aussi indépendante de notre métier. Hein, moi, il y a 27 ans, j'ai traversé une période de chômage et ça a été une chance inouïe pour moi parce que ça m'a appris à me désidentifier de mon métier. C'est-à-dire, j'ai réalisé à ce moment-là que même quand je n'avais plus d'existence professionnelle, j'existais toujours et que ma valeur n'avait finalement rien à voir avec ce que je faisais, vous voyez. Et donc, en avançant en âge, on se libère de toutes ces illusions pour se recentrer finalement sur qui on est. Donc, il y a une évolution très positive dans l'être humain.
Et on s'enrichit aussi de toutes les rencontres. Et je crois que tous les dialogues que contient chacun de vos livres, et en particulier « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi », il est fait de rencontres, rencontres avec des textes ou rencontres avec des personnes. Et là aussi, c'est très intéressant de voir que les textes auxquels se confronte Alice, puisqu'elle elle a le besoin de revenir à des textes. Donc on a parlé de la Bible et en particulier du Nouveau Testament, mais elle va aussi voir le Tao. Et il y a une scène assez comique où elle n'arrive pas à se concentrer parce que c'est très obscur. Mais elle se confronte à des textes et elle donne envie aussi de revenir à des textes, et en particulier aux paroles de Jésus.
Oui, sachant que la première fois qu'elle lit la Bible, elle le prend au premier degré. Alors évidemment, comme c'est fait de paraboles, elle trouve ça assez niais finalement. Pour elle, c'est un peu un tissu de niaiserie. Et finalement, c'est la compréhension d'autres courants spirituels, d'autres textes fondateurs, comme par exemple le Tao Te Ching pour le taoïsme que vous évoquez, Sylvie. Mais en fait, c'est la compréhension de ces textes-là qui vont bizarrement l'apprendre à mieux comprendre, lui permettre pardon, de mieux comprendre le christianisme. Et elle va même trouver un certain nombre de points communs, même si on va pas tout révéler.
Voilà, on va pas tout révéler parce que c'est vraiment un cheminement. Il y a trois grandes parties dans votre roman avec 31 courts chapitres. Et on a vraiment envie d'aller voir le chapitre suivant. 31 chapitres comme les 31 jours du mois de janvier, mais je suis sûre que vous allez les lire en bien moins que 31 jours. C'est vraiment, il y a une quête orientée dans laquelle on a le sentiment d'avancer au fil des chapitres, en accompagnant bien sûr les personnages.
Et vous voyez, puisque vous évoquez ces autres religions, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de recul sur les religions. D'abord parce que mes parents sont issus de deux religions différentes, donc je n'appartiens vraiment véritablement à aucune. Si vous voulez, j'ai beaucoup de distance par rapport à ça. Et je vois un peu les religions comme étant... Alors, je ne parle pas des religions qui sont utilisées à des fins politiques, hein, mais les religions qui correspondent vraiment à des mouvements spirituels, eh bien, à ce moment-là, pour moi, je les positionne un peu comme des différents chemins, mais qui aboutissent au même endroit, si vous voulez. Un peu comme si elles étaient toutes à la base d'une pyramide, vous voyez, et dans le but d'aider la personne, les disciples, les fidèles, à avancer, à monter sur la pyramide. Et puis au final, finalement, sur l'ultime marche, tout le monde se retrouverait, vous voyez. Ce sont les chemins différents, mais pour aboutir au même endroit. Et moi, quand je me suis intéressé à différentes religions pour écrire ce roman, eh bien, j'ai surtout vu les points communs, en fait, derrière des pratiques ou des dogmes qui sont très, très, très différents. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous rentrez dans un temple bouddhiste, une synagogue, ou une église catholique ou même un temple protestant, vous voyez surtout les différences. Vous avez l'impression d'être dans des mondes très différents, des univers très différents. Mais en même temps, les messages de fond, et surtout quand on remonte, quand on s'intéresse au texte à l'origine, donc avant les rituels, avant la création, l'invention des rituels, bah finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes.
Oui, et... on voit aussi qu'en comparant les textes et les traductions, parce que ça aussi c'est un aspect très intéressant de ce roman, c'est qu'on s'intéresse aux traductions et du coup à des bifurcations de sens qui ont peut-être créé des dogmes qui vont jusqu'à s'entretuer, enfin jusqu'à pousser les gens à s'entretuer, jusqu'à pousser la hiérarchie à sévir. Ça se passe aussi dans ce roman, alors que tout tient à des traductions différentes, quoi.
Oui, bon, ça on le sait bien, notamment pour la Bible. En fait, il y a eu de multiples traductions, il y a eu des erreurs de traduction, et il n'y a pas eu que des erreurs. Il y a eu, à un moment donné, il y a des traducteurs, y compris dans des versions de la Bible qui sont très répandues aujourd'hui, mais il y a des traducteurs, à un moment donné, qui se sont accordés la liberté de modifier un peu la parole d'origine, parce que ça allait plus dans le sens, finalement, de ce qui était attendu, de ce qui était correct dans la vision de l'Église. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, mais c'est la vérité en l'occurrence.
Oui.
En sachant qu'en plus, Jésus n'a rien écrit, évidemment, pas plus que Bouddha d'ailleurs. Et il s'exprimait, comme vous le savez, en araméen, alors que les évangiles ont été écrits en grec. Et donc, ça, on peut imaginer donc, que les paroles de Jésus ont été quelque part traduites aussi, transposées, en tout cas de l'araméen vers le grec ancien, et puis du grec ancien vers, pour nous, le français aujourd'hui. Donc, il y a eu quand même de multiples traductions.
Alors, elle devient très forte.
Et puis, il y a eu des ajouts aussi, et on le sait bien. Voilà. Il y a eu de multiples ajouts. Alors, les historiens, les exégètes ont essayé de faire un peu le tri, mais ce n'est pas évident. Et c'est pas évident. Puis il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de mettre de côté. Vous voyez, par exemple, je sais plus dans quel évangile on dit que enfin, on voit Jésus s'adresser à l'un de ses disciples, Pierre en l'occurrence, et il lui dit « Tu t'appelles Pierre ?» Même si son vrai nom c'était Simon, mais voilà, il appelait Pierre et lui dit tu t'appelles Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et en fait aujourd'hui tous les historiens s'accordent à dire que c'est un ajout tardif, même je crois que ça date du 3e siècle, parce que la fin de la phrase que je n'ai plus en mémoire mais révèle une culture grecque qui n'était clairement pas la culture de Jésus. Donc on sait avec certitude que Jésus n'a jamais prononcé cette phrase. Et bien, c'est un ajout qui a permis aussi la création de l'église.
Voilà, on en avait besoin.
Bon, sachant que Jésus n'a en fait jamais voulu créer d'église, c'est pas grave, hein, d'ailleurs, c'est pas un problème, mais il n'a pas voulu créer d'église.
Et la couverture du livre aussi est très évocatrice parce que elle fait moins penser à la religion catholique qu'à du bouddhisme ou à une comment dire, pas une foi, mais en tout cas une spiritualité orientale. Puisqu'on voit une espèce de fleur qui s'ouvre et qui laisse échapper des poussières d'étoiles ou des étincelles. Et donc, on voit déjà à la couverture qu'on va essayer de revenir à du commun, en fait, à des racines communes, peut-être, et aux racines de l'homme, pourquoi pas, puisque votre livre jette un pont entre des civilisations apparemment très éloignées, qui se sont historiquement éloignées, mais qui peut-être, autrefois, il y a très longtemps, dans un passé multimillénaire, étaient beaucoup plus proches.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous voyez, les points communs que j'ai trouvés entre les paroles de Jésus et celles de Lao Tzu, par exemple, c'est quand même 8 siècles avant Jésus, sont tout à fait étonnantes parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur la vie de Jésus avant qu'il commence à prêcher, n'est-ce pas, puisqu'il avait une trentaine d'années quand il est sorti de l'ombre. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il a fait avant. On sait qu'il était charpentier, mais est-ce qu'il a voyagé? Alors, certains d'ailleurs affirment qu'il aurait voyagé en Orient. Alors, ça explique peut-être le lien avec le taoïsme. Peut-être qu'il était au contact de ces textes-là. On ne sait pas. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce domaine. On ne sait pas grand-chose sur l'existence de Jésus, sur sa vie avant ses 30 ans. On sait juste qu'il a existé. C'est un personnage historique et il n'y a pas de doute là-dessus.
En tout cas, cette valeur du détachement et du dépouillement, de se dépouiller. Alors, de quoi voilà, est-ce que ce sont des vêtements au sens propre, c'est ce qui fait bien rire Alice au début du livre, ou est-ce que c'est un vêtement symbolique, c'est-à-dire les croyances, les fausses croyances dont on parlait tout à l'heure, des illusions qui nous accompagnent plus ou moins longtemps pendant notre jeunesse, est-ce que c'est de ça qu'il faut se dépouiller? En tout cas, les textes sont suffisamment métaphoriques justement pour faire réfléchir chacun.
Oui, c'est-à-dire Jésus s'exprimait en parabole. Et donc, en effet, quand il dit, par exemple, un marchand très riche, je crois que c'est un marchand, enfin un homme riche, en tout cas, qui vient le voir et lui dit qu'est-ce que je peux faire pour rejoindre le royaume de Dieu, quoi. Et Jésus lui dit vends tous tes biens et suis-moi, quoi. Donc, on peut le prendre, évidemment, en premier degré. Et ça a souvent été compris comme tel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un fond de culpabilité dans la relation à l'argent que nous autres, de culture judéo-chrétienne, on peut avoir, d'accord, en tout cas de culture chrétienne. Et en même temps, ça pouvait aussi être pris de manière métaphorique, parce que défais-toi de tous tes biens, ça pouvait être aussi défais-toi de tous tes attachements. Et les attachements, ce n'est pas que l'attachement matériel. Il y a un certain nombre d'attachements, et je l'évoquais tout à l'heure, l'attachement à l'image de soi, à travers ses possessions, certes, mais aussi à travers son métier, à travers tout ce qui peut nous valoriser, notre apparence physique, etc. Et moi, je pense que Jésus invitait à se libérer de tous ces attachements, et pas seulement de l'attachement à l'argent.
Et aussi, peut-être, comme dans les civilisations orientales, à parvenir à l'éveil. Parce que dès le titre, vous le dites, hein, le trésor qui dort en toi. Donc, passer de l'état de zombie, peut-être, que nous traversons souvent aussi dans notre vie professionnelle aujourd'hui, à l'état d'éveil. Et vous montrer à travers le roman et l'histoire que, justement, cet éveil, il est aussi... Il en est aussi question fondamentalement dans la foi catholique, dans la religion catholique.
Oui, même
ça,
si
c'est quand même très décoiffant, on va dire.
C'est une idée qui est très peu présente dans le christianisme. On va parler de foi, on invite à la foi et pas à l'éveil. Alors qu'en fait, si on se penche sur les paraboles de Jésus une fois de plus, on voit que indirectement, il invite à cela, quoi. Y compris dans un certain nombre d'événements. Par exemple, quand il va ressusciter son ami Lazare, hein, qui l'aimait beaucoup et qui est mort. Et d'ailleurs, on nous fait bien savoir qu'il était vraiment mort, puisqu'on va jusqu'à nous dire dans les évangiles qu'il sentait mauvais, n'est-ce pas ? Donc, il était déjà en putréfaction, le pauvre vieux, quoi. Et en fait, qu'est-ce que fait Jésus ? Il l'éveille. Il le ramène à la vie, quoi. Et en fait, on peut le voir comme une métaphore d'une invitation à nous éveiller, nous. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, vous voyez, même chose quand il va guérir des paralytiques. Tout ça peut être, je ne peux pas l'affirmer, hein, puis je ne me prends pas pour un exégète non plus, mais ça peut être une invitation à nous faire passer d'un état qui est un état léthargique, un état d'endormi, un état de paralysé quelque part, à un état éveillé, quoi. Et ça, on le voit vraiment à plusieurs reprises.
Et c'est là peut-être la convergence entre développement personnel et spiritualité, parce que la pleine conscience, la méditation, la présence au monde, ce sont aussi des notions que l'on rencontre très, très souvent aujourd'hui, beaucoup plus que naguère, et qui permettent à chacun justement d'avancer.
Oui, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se tournent justement vers la spiritualité orientale, comme en effet le bouddhisme, même aussi l'hindouisme. Et en fait, la grande différence pour moi, elle n'est pas tant sur les messages, qui en fait se ressemblent quand on remonte à la source, mais plutôt sur les méthodes, sur le moyen. Et en l'occurrence, pour moi, ce qui caractérise les spiritualités orientales, c'est qu'elles ne demandent pas aux disciples de croire, elles leur demandent d'expérimenter. Elle invite à une expérimentation et ça rejoint ce que je vous disais d'entrée de jeu, à savoir qu'à un moment donné, on a besoin d'un travail psychologique. Parce qu'il y a 2000 ans, on pouvait peut-être demander aux gens de croire, mais aujourd'hui, on a tous fréquenté les bancs de l'école, on est tous quand même assez rationnels, voire cartésiens, et on a besoin de comprendre, n'est-ce pas ? Et c'est difficile pour nous, au XXIe siècle, de juste croire en fermant les yeux. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport aux spiritualités orientales, et selon moi, ça peut être aussi transposé au christianisme, c'est l'expérimentation. Expérimenter un certain nombre de choses qui vont nous permettre de comprendre et donc d'évoluer. Et c'est ce que va faire finalement Alice dans l'église de Jérémie, où elle va l'inviter. On ne va pas tout vous raconter, parce que je ne veux pas gâcher votre plaisir de lecture si vous ne l'avez pas encore lu, mais elle va inviter Jérémie à offrir à ses fidèles la possibilité d'expérimenter un certain nombre de choses issues de la parole de Jésus, en fait, pour vraiment le vivre de l'intérieur et pas seulement croire ce qu'on leur dit, quoi.
Oui. Et donc, ce côté expérience pratique, quotidienne, on le retrouve comme dans d'autres livres que vous avez écrits avant, dont on a parlé au début. Mais ici, c'est très proche finalement des exercices spirituels dont l'histoire catholique est pleine, hein, et qu'on retrouve aussi, par exemple, chez Pascal ou même sans doute chez Mauriac, puisqu'on est ici à Bordeaux. Il y a des expériences et des exercices spirituels qui peuvent nous mettre dans un état différent vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. Et c'est aussi ce qu'on va vous laisser découvrir au fil du roman. Mais c'est intéressant de voir comment vous transposez à l'époque la plus contemporaine et dans la vie la plus quotidienne des notions qui peuvent paraître extrêmement abstraites ou supérieures ou éthérées ou démodées d'ailleurs et qui se retrouvent au contraire au centre de notre vie. De manière tout à fait presque naturelle. Ça peut se passer dans une boutique Hermès, ça peut se passer dans une église, ou bien ça peut se passer autour d'un jeu vidéo. Et à chaque fois, on voit, on a envie aussi à son tour d'expérimenter ce genre d'exercice que qu'Alice propose. Merci encore, Monsieur Gounel.
Merci à tous.
Merci à tous.